Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec des membres des éditions Smolny autour du livre « Cauchemar en URSS, les procès de Moscou 1936-1938 » de Boris Souvarine. Le 21 avril 2022 à la librairie Terra Nova.
Bon, alors bonsoir. Et puis alors, on fait quand même comme s'il y avait la foule pour remercier la librairie Terra Nova de nous accueillir toutes et tous ce soir, si nombreux. Et c'est là que normalement il y a un écho formidable dans le micro. Pour cette présentation qu'on avait intitulée URSS 2. Un cauchemar qui dure, point d'interrogation. Alors pourquoi qui dure? Ben parce que on s'est dit qu'il fallait créer dans l'actualité, et l'actualité évidemment celle qui écrase tout le reste. C'est la guerre Ukraine-Russie et le retour, évidemment, retour, même si ça n'a jamais cessé ailleurs aux quatre coins de la planète, on pourra en parler, mais de formes de barbarie, de crimes de guerre, d'exactions. On parle maintenant de entre 4 et 5 millions de personnes déplacées, de réfugiés. Au lieu de partir directement ce livre de Boris Souvarine qui devait être le support de cette présentation, je voudrais vous lire juste un extrait de Rosa Luxembourg, un de ses textes les plus fameux et évidemment un des plus fameux extraits de ce texte fameux. Friedrich Engels a dit un jour que la société bourgeoise était placée devant un dilemme, ou passage au socialisme, ou rechute dans la barbarie. Mais que signifie donc une rechute dans la barbarie à notre niveau de civilisation en Europe? Nous avons lu et répété ces paroles jusqu'à maintenant sans y réfléchir, sans en pressentir la terrible gravité. Un coup d'œil autour de nous, en ce moment même, suffit à nous montrer ce que signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie. Cette guerre mondiale, c'est cela, une rechute dans la barbarie. On pourrait dire, la guerre en Ukraine, c'est cela, une rechute dans la barbarie. Le triomphe de l'impérialisme conduit à l'anéantissement de la civilisation, sporadiquement pendant la durée d'une guerre moderne, et définitivement si la période des guerres mondiales qui commence maintenant devait se poursuivre sans entrave jusque dans ses dernières conséquences. Nous nous trouvons donc aujourd'hui devant le choix tel que l'annonçait Friedrich Engels, une génération avant nous, voici 40 ans. Ou bien triomphe de l'impérialisme et des cadences de toute civilisation, et comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière. Ou bien victoire du socialisme, c'est-à-dire le combat conscient du prolétariat international contre l'impérialisme et la guerre, qui est son mode opératoire. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un ou bien, dont les plateaux de la balance oscillent selon la décision du prolétariat conscient. L'avenir de la civilisation et de l'humanité dépend du fait que le prolétariat jette le glaive de son combat révolutionnaire avec une virile résolution dans le plateau de la balance. L'impérialisme a triomphé dans cette guerre. De tout son poids, brutalement, son glaive ensanglanté du massacre des peuples a fait pencher la balance du côté d'un abîme de désolation et de honte. toute cette désolation et toute cette honte ne seront compensées que si nous apprenons de la guerre et dans la guerre comment le prolétariat peut sortir du rôle d'un valet manipulé par les classes dirigeantes pour devenir le maître de son propre destin. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que Rosa Luxembourg écrit donc ce texte en prison en 1915, il sort en 1916. Elle l'écrit après la sidération qu'a été pour le mouvement ouvrier international le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et on serait tenté de dire que cet effet de sidération, on l'a toujours encore maintenant face au déclenchement de la guerre en Ukraine, à l'escalade qui l'accompagne, aux enjeux finalement qui sont en train de se révéler de plus en plus globaux de ce conflit. Et qu'on est toujours dans la même sidération, c'est qu'est-ce qui rend possible que l'impérialisme se déchaîne sans contrepoids révolutionnaire face à lui. Parce que finalement, ce que nous donne à lire, à comprendre et à réfléchir, surtout Rosa Luxembourg, là, c'est que certes, il y a cette alternative qu'elle reprend de Engels, socialisme ou barbarie, mais elle le précise. Elle dit, c'est ou impérialisme et guerre, ou combat révolutionnaire du prolétariat conscient. Et deux fois, elle insiste là-dessus, du prolétariat conscient, combat international et conscient. Donc finalement, ça nous renvoie toujours et encore à notre condition actuelle, qui est pourquoi pas de conscience de classe, pourquoi l'internationalisme n'est même pas évoqué dans les situations présentes. On a eu quelques échos, il y a eu quelques appels, quelques soutiens, quelques groupes marginaux essayent de faire circuler, essayent de garder des contacts avec des anarchistes ukrainiens ou russes, par exemple. Mais fondamentalement, ce qui illustre avec une indécence rare la campagne électorale française, par exemple, ces questions-là ne sont tout simplement pas à l'ordre du jour. La seule question, c'est une fausse solidarité qui est un renforcement des tensions guerrières, c'est un alignement d'un camp contre un autre, et surtout pas d'explicitation des enjeux impérialistes, c'est-à-dire la recomposition du bloc, d'un bloc anti-américain derrière la Chine, et les perspectives d'affrontement global dont la situation est porteuse. Donc ça, finalement, on est dans ce contexte-là. Et je dirais que les éléments de langage qu'ont été utilisés dans un camp comme dans l'autre, etc., renvoient justement à ce gommage de la conscience de classe et du moins à cette atténuation et à la disparition d'un combat internationaliste, en tout cas. Et nous renvoie loin dans le temps, parce que les références ont été souvent très lointaines. On s'est cru autorisé à nous faire des explications sur la Russie, l'Ukraine, des aspects très spécifiques. Est-ce que c'est une nation, pas une nation, depuis quand, pourquoi, etc. Et on a eu le droit à des remobilisations historiques totalement délirantes, notamment de Poutine. Mais en face, finalement, pas d'autres perspectives et, en général, pas de perspectives critiques sur l'impérialisme russe. Le mieux qu'on entende, il suffit de prendre, par exemple, les partis de gauche en France, pour l'instant citer personne, c'est de reparler de la politique impériale de la Russie, c'est-à-dire une façon de se réinscrire, certes, dans une histoire longue qui a son intérêt et qui justifie parfois certaines composantes au long cours, hein, mais qui, entre guillemets, gomme la spécificité de l'histoire de l'impérialisme et en particulier de l'histoire de l'URSS comme puissance impérialiste, dans laquelle, effectivement, pour le coup, s'inscrit totalement la politique impérialiste actuelle de la Russie. Donc, ce cadre d'analyse de l'impérialisme est central, on y reviendra. Et une des expressions qui surgit régulièrement, mais c'est normal par rapport à cette réalité abominable, c'est celle de cauchemar. Et le cauchemar, il est donc double. Rosa Luxembourg le vit, et les militants internationalistes le vivent dans leur chair comme ça. C'est le cauchemar de voir la guerre et le cauchemar de voir l'incapacité du prolétariat à s'y opposer. Et c'est pour ça que Boris Souvarine avait intitulé le principal article qui compose ce livre, en tout cas en taille, « Cauchemar en URSS ». Et on peut dire que de ce point de vue, ce cauchemar, effectivement, dure. Et il est très intéressant. Moi, c'était un peu la suggestion, même si, entre guillemets, je ne veux pas faire de surdétermination, de venir reprendre la question telle qu'elle se posait dans les années 30, en particulier comment on a commencé à construire un discours idéologique dont on a eu, je dirais, beaucoup de mal à se départir, mais dont, en fait, on ne s'est jamais totalement départi. On va voir qu'il y a encore des traces très, très présentes dans le discours politique actuel. Alors, pourquoi donc ce cauchemar? Parce que ça n'a pas été reconnu comme tel. Il se poursuit, on l'a dit. Il reste mobilisable. Alors, en Russie, bien sûr, mais pas uniquement. Il a permis, en fait, ce que va réussir avec beaucoup plus de brio George Orwell que n'a pu le faire Souvarine. Mais bien sûr, Orwell connaissait tout ce contexte-là sur le bout des doigts, pour l'avoir vécu d'un point de vue militant, c'est qu'on va commencer à s'habituer à ce qu'un mot puisse avoir sa signification contraire. La fameuse expression « la guerre, c'est la paix », ou « la paix, c'est la guerre », et c'est exactement ce que l'on vit. Il est évident que, entre guillemets, la Russie est en train d'aller pacifier quelque chose dans l'esprit de Poutine et de ceux qui le suivent, de l'État, de l'idéologie étatique russe, c'est ça. Nous, pas de doute que de reconstituer, de ressouder les liens derrière l'espèce de réalignement global de l'Europe derrière les États-Unis et le réarmement massif qui est en train de s'opérer dans tous les pays où tous les programmes militaires sont relancés, bien entendu qu'on nous dit c'est dans des perspectives de paix. Donc on est dans un monde totalement orwellien qui date de cette époque où on a fait dire l'exact contraire à certains mots, à certaines idées pourtant qui du moins, les concepts les plus sensibles dans le combat politique des années 30. Et ça a été rendu possible parce que on a développé un discours politique où il n'était plus possible de récuser ce qu'il se disait. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on est. C'est-à-dire que même à une échelle dérisoire et souvent grotesque, quand on écoute les discours politiques, admettons en France, on a l'impression qu'il n'y a plus moyen de se saisir de ce qui est dit pour le récuser. Il n'y a plus de mode argumentatif qui permette de rétablir, et ça c'est l'idée de génie d'Orwell, de rétablir que 2 plus 2 font 4. Et en gros, Souvarine n'arrive pas encore à l'exprimer aussi clairement, mais c'est exactement ça qu'on trouve dans le cauchemar en URSS, c'est que on est en train de lâcher sur le fait que 2 plus 2 font 4. Et si on lâche sur ça et qu'on accepte que ça fasse, pour comme ce qu'on essaye de mettre dans la tête de Winston, que 2 plus 2 font 5, alors effectivement, plus rien ne tiendra. Et en particulier, on empêchera que se forme une conscience claire de la réalité et partant de là de la lutte sociale. Alors, qui est Souvarine? Je ne sais pas si c'est très intéressant de déployer beaucoup d'éléments biographiques. L'ironie de la chose veut qu'il soit né à Kiev en 1895, mais ses parents partent très vite en France en 97. Et lui, sa trajectoire politique, entre guillemets, c'est pas celle d'un renégat, comme des fois il continue encore maintenant d'être présenté, compte tenu de sa trajectoire, je dirais, sur sa carrière très longue, parce qu'il est mort en 1984. Et c'est quelqu'un qui est à la gauche du mouvement ouvrier international et justement qui est dans l'opposition à la guerre pendant la Première Guerre mondiale, qui va faire partie notamment du comité pour la reprise des relations internationales, du comité pour la Troisième Internationale. Et il est un des rédacteurs de la motion du congrès de Tours qui permet l'adhésion à la Troisième Internationale et la constitution donc de la section française de l'Internationale communiste qu'on appellera... assez rapidement après le Parti communiste français. Et dans ce cadre, d'ailleurs, il sera secrétaire, il sera le délégué pour le Parti communiste français auprès de l'International, où il sera secrétaire et membre du présidium de l'International. Donc quelqu'un qui est vraiment au cœur de la vague révolutionnaire de 1917 à 21 et des brouettes, et qui occupe des postes très en vue, très exposés aussi, hein. Et il est exclu de lycée en 24, il va être exclu du PC donc, et il va commencer à faire paraître différentes publications d'opposition, dont le bulletin communiste, et il va former un cercle. Alors, vous imaginez les noms qu'on prenait à l'époque, hein, il va appeler le cercle communiste Marx et Lénine, je crois, et ensuite qui va se transformer en 1930 en cercle communiste démocratique, où qui publiera une revue, une excellente revue, qui n'aura pas une audience de folie, mais qui prépare énormément le terrain pour la compréhension de ce qui est en train de se jouer en URSS. C'est une revue qui s'appelle La Critique sociale, dont les meilleurs articles sont dans le précédent recueil que Smolny a fait paraître et qui s'appelle La Contre-Révolution en marche. Et c'est très intéressant d'ailleurs, La Contre-Révolution en marche, il est en train d'exposer déjà qu'il y a du mensonge entre guillemets à tous les étages et que on a même pas lui il a l'impression que de dénoncer les faits et de dénoncer, admettons, la persécution des opposants va déjà suffire à une prise de conscience. Admettons, il va faire toute une série de petits articles qu'on trouve dans l'autre recueil. Quand David Rajazianov est arrêté et jugé en 1931, avec il y a le procès des Mencheviks, un deuxième procès des Mencheviks en 1931, et surtout Rajazianov est arrêté. Et alors, ça paraît normalement le truc complètement fou, parce que David Rajazianov, c'est un vieux bolchevique, mais qui n'a jamais été, je dirais, à la pointe des combats de quoi que ce soit. C'est un marxologue érudit. C'est le fondateur de l'Institut Marx Engels à Moscou. Il n'a qu'une seule préoccupation, c'est collecter tous les documents en Europe concernant le mouvement ouvrier et en particulier les textes, les manuscrits de Marx, etc. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont à Moscou. Il y en a d'autres qui récupéreront après la seconde, du moins durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, c'est un érudit. Il a lancé, il a commencé la première méga, donc la Marx Engels Gesamtausgabe, l'édition complète des œuvres de Marx Engels, etc. Bref, on serait tenté de dire c'est un rat de bibliothèque, mais qui est universellement apprécié dans tous les courants politiques, socialistes ou communistes de l'époque. Ce gars-là est arrêté. Et, en fait, Souvarine commence à tiquer à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de réaction réellement internationale pour dénoncer ça. À ce moment-là, les gens ne sont pas directement exécutés. En particulier, les bolcheviks ne sont pas exécutés. Il y a une espèce de règle d'or, de règle non dite, qui est la répression ne s'abat pas à l'intérieur du parti, en tout cas pas la répression physique, autant d'exécuter des militants. Là, ce sont des années très importantes où Souvarine analyse en profondeur l'évolution de la trajectoire de l'URSS et il publie chez Plon en 1935 son Staline, sous-titré Aperçu historique du bolchevisme, qui est déjà, pour l'époque, hein, on est juste en 35 et on n'a pas la suite, hein, ça c'est incroyable, qui est une analyse complète du stalinisme comme phénomène social. Mais évidemment, comme vous le savez tous, on va franchir un cran à partir de l'été 1936, quand vont s'ouvrir ce qu'on a appelé depuis les grands procès, ou tout simplement les procès de Moscou, et qui en deux ans, par vague, vont mettre en scène, il n'y a pas d'autre mot, ce sont des procès-spectacles, donc à l'été, en août 36, en janvier 37, un second procès, dans le printemps 37, il y a un procès à huis clos des militaires, procès extrêmement important aussi, et on finira en mars 38 par le dernier très grand procès où sont jugées à peu près toutes les grandes figures, on va dire, du mouvement bolchevique, agrémenté de comparses qui peuvent venir d'autres courants ou qui peuvent être des gens, des administratifs ou des diplomates, etc., etc. On aurait pu penser, devant l'énormité de ce qui va se dire dans ces procès, que ça allait soulever à la fois une vague d'indignation, mais on serait presque tenté de dire, quand on les lit, personnellement, j'ai retranscrit tout le PV du procès de 36, que ça doit juste être l'hilarité même, si on écarte le drame réel qui est derrière ça. Pas du tout. Pas du tout. Et ça va être plus que ça. C'est-à-dire que, et ça, on va en parler parce que ça, c'est le cœur de ce qu'il faut, à mon avis, comprendre là-dessus. C'est que non seulement il ne va pas y avoir de dénonciation claire, y compris dans des milieux qu'on ne soupçonnait pas, mais ceux qui vont dénoncer ça ou exposer l'inanité, du moins le danger pour la conscience que ça représente d'accepter ça, c'est ceux-là qui vont se faire taper dessus. Quelque chose de très représentatif, c'est que à ce moment-là, on a parlé de Riazanov, mais il y a aussi Victor Serge qui, grâce quand même à une campagne internationale, et parce qu'il était lui aussi très connu et que ses livres avaient été déjà traduits et lus en Europe et aux États-Unis, va être libéré, etc. Mais quand il arrive en France, on lui dit, comme à tous ceux qui reviennent, ne faites pas de vagues. Il y a un grand espoir qui est en train de naître. Hein, vous reconnaissez des situations actuelles. Il ne faut jamais critiquer les programmes de ceci, de cela, parce qu'il y a un espoir de faire toujours... Et donc, comme ils joignent le geste à la parole, Souvarine ou Victor Serge, par exemple, sont aussi exclus de la presse. D'ailleurs, Victor Serge, pendant les années 36 à 39, va publier l'essentiel de ses analyses. Je pense qu'il y a quelques textes comme Souvarine qui peuvent paraître dans La Révolution prolétarienne, qui est un petit journal de Pierre Monat, syndicaliste révolutionnaire très important à cette époque-là, mais qui a une audience un peu plus limitée. Mais dans la presse dite de gauche, ces gens-là sont persona non grata, c'est-à-dire donc les seuls révolutionnaires ayant vécu la révolution en Russie, qui, dans les pays qui pourtant sont des soutiens théoriques de cette révolution, on leur dit non, vous ne pouvez pas écrire. Donc, par exemple, dans ce livre, il y avait trois articles qui étaient parus dans la première édition Agon. On a été en chercher une bonne quinzaine d'autres dans un journal d'ultra-gauche de l'époque qui s'appelle Le Figaro. Parce que le seul endroit où on peut faire paraître quasiment au jour le jour, mais en tout cas en chronique un peu serrée des procès de Moscou, où il peut publier Boris Souvarine, c'est Le Figaro ou La Vie intellectuelle. Et, ça, c'est une revue catholique, ce sont des revues de droite, comme ça. Je vais vous... Alors en plus... Souvarine a une verve particulière qu'on avait déjà dans le premier recueil, mais qui est liée tout simplement au fait qu'il a un avantage considérable sur tous ses opposants ou tous ses critiques, et notamment de gauche. On va y revenir, les staliniens, voire même les socialistes de l'époque, les sociodémocrates de l'époque. C'est que lui, il sait de quoi il parle. Et que même quand il n'a pas les infos, ce qu'il sait lui donne un cadre qui lui permet d'anticiper sur ce qu'on va découvrir bien, bien, bien plus tard. Et notamment que les procès-spectacles de Moscou ne sont que la partie qui dépasse, quoi, de l'iceberg, hein, émerger de l'iceberg, et que derrière, ça veut dire en cascade une répression et des éliminations physiques d'une ampleur jamais vue. Et c'est l'exacte réalité. C'est-à-dire que... à l'occasion, notamment, je vais prendre un article qu'il fait et qui synthétise un peu les deux premiers procès de Moscou, mais il l'écrit au moment où on apprend que Tukhachevski a été arrêté, ainsi que deux autres maréchaux, ainsi que d'autres généraux, et qu'ils sont jugés à huis clos. Et on apprend après qu'ils ont été condamnés et exécutés avec cette célérité de la justice russe de l'époque, qui est qu'en général, vous êtes exécuté dans les 24 heures. Donc on est au printemps 37, et ce n'est pas mon exemplaire, donc je peux chercher pendant très longtemps le petit post-it. Ça ne va pas marcher. Le voici. Donc, je vous le lis en entier parce que l'article est court. Hein. Donc, ça s'appelle « Le maréchal Tukhachevski et sept généraux de l'armée rouge sont condamnés à mort. Le Figaro, 12 juin 1937. Le voile se déchire. Staline a donné l'ordre de mettre à mort les principaux chefs de l'armée rouge. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un communiqué officiel a annoncé l'arrestation de 8 généraux et leur comparution devant la Cour suprême. Dès hier jeudi, à huis clos, le procès a commencé. Le supplice des « héros » entre guillemets de l'armée rouge n'est plus qu'une question d'heure. Il s'agit du maréchal Tukhachevski, des généraux Yakir, Uborovitch, Kork, Heinemann, Feldman, Primakov et Poutna. Si Gamarnik ne s'était suicidé, il serait au banc des accusés. Ce sont bien les principales têtes de l'armée rouge qui vont rouler dans le sang. Tous ces généraux avaient ce qu'il est convenu d'appeler les plus brillants états de service. Tous étaient décorés de l'ordre de Lénine et de l'ordre du drapeau rouge, plutôt trois fois qu'une. Tous ont gagné leur grade sur les champs de bataille pendant la guerre civile russo-russe. Tous paraissaient hier ou avant-hier encore au-dessus de toute atteinte. Et ces hommes ont été accusés de haute trahison, plus précisément d'espionnage au profit de l'Allemagne, accusation monstrueuse, manifestement imbécile, à laquelle aucune personne saine et honnête n'accordera le moindre crédit. Presque tout l'état-major d'une armée se livrerait à de l'espionnage au service de l'armée qui doit combattre la leur en temps de guerre. Si Staline voulait faire savoir au monde que la Russie est tombée au niveau de la Chine, il ne s'y prendrait pas autrement. Qu'il n'y ait pas un mot de vrai dans ces accusations insensées, cela ressort assez clairement de toute la marche des événements en URSS. Même si les accusés avouent, à leur tour, des choses impossibles, leurs aveux sont sans valeur. Il est patent que Staline dispose de moyens efficaces pour faire avouer n'importe quoi à n'importe qui. Il est constant que Staline se débarrasse de tous ceux dont l'existence le gêne sous n'importe quel prétexte. Les pires adversaires de Trotsky ont été taxés de trotskisme. Les plus inoffensifs politiciens de terrorisme, les dirigeants de l'industrie de sabotage, les chefs de la police de crimes de droit commun. Maintenant, les militaires sont taxés d'espionnage et de trahison. C'est pour ainsi dire dans l'ordre, un ordre un peu spécial. Mais le procédé ne peut tromper que les dupes volontaires. Il importe d'attirer l'attention sur le fait que la suppression de 9 des principaux chefs de l'armée rouge implique ipso facto le retrait de la circulation, entre guillemets, de centaines d'individus, parents, amis, collaborateurs. Il importe aussi de souligner ce fait énorme que les accusés sont jugés par les généraux qui viennent de leur succéder au plus haut poste de commandement, en attendant de prendre leur place au banc d'infamie. Nous assistons donc à une véritable hécatombe au ralenti. De nouveaux procès sont en perspective. La génération d'octobre agonise. Staline veut rester l'unique survivant des compagnons d'armes de Lénine et n'avoir autour de lui que des médiocres incapables de regarder, entre guillemets, le soleil en face. Car Staline exige qu'on le compare au soleil. La parole est au psychiatre. Donc, y a vraiment tout... Et là, vous vous dites, mais effectivement, il y a des choses comme ça qui sont en train de se passer. Le resserrement du pouvoir, l'élimination de membres très haut placés. On vient d'en avoir là encore en Russie, évidemment, sous les accusations de trahison, de sabotage. Les questions de sabotage sont extrêmement importantes en Russie. parce que évidemment la population voit bien que ça ne fonctionne pas dans sa vie quotidienne, qu'il y a plein de choses qui merdent, qu'il y a de la pénurie, etc. etc. Donc il est très important de dire qu'il y a des sabotages. Les trains fonctionnent mal, les trains déraillent, etc. C'est du sabotage. Donc on trouve ça, c'est encore un rôle intérieur très, très présent aujourd'hui. On a entendu Poutine parler que des mauvais Russes, de ceux qui ont accès à, qui sont sur le mode de vie occidental, soi-disant, etc., et qui, dont on n'a pas besoin, qu'il faut se débarrasser, je ne sais pas comment il a dit, comme des moucherons, tout ça, qu'il faut écraser. Et évidemment, la qualification d'ennemi, on retrouve ça en permanence. C'est-à-dire que, on va voir le rôle, malheureusement, que ça joue et que ça continue de jouer aujourd'hui, mais la plupart des accusés seront toujours convaincus, non seulement d'être des trotskistes, mais d'être au service de la Gestapo, bien entendu, ou de faire le jeu de l'Allemagne, etc. Bon. Donc ça, c'est un article parmi d'autres. C'est pas forcément un article d'analyse. Celui-ci, c'est encore une fois dans le Figaro. Il fait beaucoup d'articles très rapides pour décrire la situation. Mais on voit qu'il ne peut pas s'empêcher de dire, mais que ce sont des tissus d'ânerie, etc., et que personne ne va y croire, etc. Mais quelle est la réalité à laquelle il se heurte et auquel se heurtent les très rares groupes de gauche là-dessus? Quelles sont les réactions? Sans surprise, les partis communistes d'Europe occidentale non seulement ne font aucune critique, mais ne mettent en doute absolument rien de ce qui se passe, mais vraiment absolument rien. Il faut vraiment reprendre les journaux à l'époque. C'est qu'il n'y a pas le moindre doute sur l'ensemble des âneries qui sont dites. Ce qui est très logique, parce que vous ne pouvez pas détricoter juste un petit bout. Si vous commencez à dire que ça n'a aucun sens que Zinoviev soit trotskiste, c'est fini. Alors quoi? Zinoviev, donc, s'est accusé à tort. Mais alors, le procureur, pourquoi le procureur se laisse balader comme ça? Pourquoi ils sont en jugement, finalement? Plus rien n'a de sens. S'ils n'ont pas fait les sabotages, pourquoi alors tout l'acte d'accusation est construit sur des sabotages? On ne peut rien faire. C'est-à-dire que la stratégie, c'est de construire un mensonge total. Vous ne pouvez pas le saucissonner. Ce qu'on va essayer de faire, notamment Trotsky, la commission de Way, etc., c'est de reprendre tous les éléments, tous les faits, etc. Mais ça ne change rien de reprendre tous les faits. C'est là que s'opère la bascule. C'est vraiment là que, pour la première fois à cette échelle, il n'est plus possible de réfuter quelque chose sur la base de la reprise des faits. Même partiellement. Et Souvarine ne peut faire très souvent que de redire sa sidération devant l'immensité de la bêtise de la chose, quoi. Donc les Staliniens, non seulement ne critiquent absolument rien, mais ils renchérissent là-dessus. C'est-à-dire, ils appellent au châtiment des traîtres. On s'est, entre guillemets, j'ose pas employer ce mot, mais amusé à mettre les manchettes des titres et sous-titres de l'Humanité les mêmes jours, ou presque, ou à quelques jours près, et sur les mêmes sujets des articles de Souvarine. C'est terrible. Un des plus terribles, c'est le bandeau du 1er mars 1938, hein. Pourquoi c'est le plus terrible? Parce qu'on en est quand même au quatrième grand procès. Donc ça veut dire le suspense, il n'y en a pas vraiment. On sait ce qui arrive à tous les accusés. On sait comment se déroulent les procès. Le bandeau de l'Humanité, ce jour-là, c'est « Justice prompte et exemplaire pour les traîtres agents de la réaction étrangère ». C'est ce que fait l'URSS, c'est ce que demande le peuple de France. Donc c'est appelé à la justice en mars 38, du moins. Alors, dans un sens, ils ne se trompent pas beaucoup parce que leurs vœux vont être exaucés, parce qu'ils seront tous exécutés quelques jours plus tard. Mais les Staliniens, sans surprise, renchérissent là-dessus et on a même un effet d'accentuation. C'est-à-dire que les réactions, là, c'est pas pour rien que je vous cite, admettons ça, en mars 38. C'est-à-dire qu'on peut sentir dans la presse communiste de l'époque qu'en 1936, des fois, ça flotte, on accepte tout. Mais la mise en route de la défense des procès de Moscou, il faut savoir que le PCF va organiser des manifestations, comme on appelle, des rassemblements à la mutualité, etc., avec Cachin, qui va montrer, c'est Cachin qui monte en front sur ces questions-là, qui rédige beaucoup. C'est aussi le rédacteur en chef de l'UMA qui fait régulièrement des articles. Mais ils vont monter en puissance. C'est pas spécialement en 36. Je dirais qu'en 36, tout le monde se fait un peu cueillir quand même par le premier procès. Mais c'est petit à petit, puisqu'il faut tout accepter en bloc, il faut construire la réponse à ça. Et donc, on va construire ce qu'on appellerait aujourd'hui les éléments de langage, la mobilisation des troupes. C'est-à-dire qu'il faut faire venir du monde à ces manifestations, etc., etc. Qu'en est-il des socialistes ? Les socialistes, ils sont gênés aux entournures. Ils ont du mal, mais en même temps, il y a des correspondants, notamment de la presse, etc., qui sont sur place. Et il y a quelque chose qu'ils vont mal gérer, que tout le monde va mal gérer, et auquel va répondre très bien Souvarine dans l'exemple que je vais vous lire après. C'est la question des aveux intégraux des accusés, et surtout l'espèce de conviction qu'on ressent dans les aveux, et à les lire, etc., et à les entendre, apparemment, pour ceux qui y étaient. Et les socialistes sont surtout gênés aux entournures, en France en tout cas, pour une raison encore plus simple. Je rappelle la date du premier grand procès, août 1936. Donc Blum est président du Conseil, c'est le Front populaire à plein, et il n'est pas question de casser l'alliance. Et là, on voit se mettre en place les mécanismes qui encore aujourd'hui sont ceux de l'alliance, de l'utilité, de l'efficacité. Et ils vont évidemment en plus avoir pour ça un repoussoir qui est de dire, alors c'est une façon de remobiliser l'accusation stalinienne, c'est de dire, mais oui, c'est vrai que notre ennemi commun, c'est l'hitlérisme, c'est le fascisme italien. Donc on ne peut pas affaiblir la position de la Russie en faisant la critique là-dessus. Donc tout doit passer. Et alors, ceux qui se font souvent allumer par notre ami Souvarine, à juste titre, et c'est plus inattendu, c'est la Ligue des droits de l'homme. Et tous les grands comités d'intellectuels, notamment sa tête de Turc dans le premier recueil, c'est Paul Langevin, qui est un très grand scientifique, et pareil, qui vont pas avoir une position claire, et en particulier sur les procès de Moscou. Là où on attendait la Ligue des droits de l'homme, c'est là où, au contraire, elle ne va pas être efficace, c'est sur la fiction juridique que représentent les procès. Parce que c'est quelque chose sur lequel les staliniens insistent beaucoup. Les accusés renoncent d'eux-mêmes à être défendus par des avocats, ont la parole en dernier, etc. etc. Donc ils prennent ces formes-là comme des garanties de justice. Et il n'y aura pas de critique pleine et entière de cette fiction juridique par la Ligue des droits de l'homme. Et ça, ça va peser aussi sur un impact très, très, très lourd. Alors sur la question des aveux et tout ça, je voudrais quand même vous lire, même si bien sûr tout a été redit, il faut lire tout ce qui a été publié depuis sur les procès de Moscou et sur comment a fonctionné notamment les grandes purges dans la société, parce que c'est ça qui est important. Encore une fois, ça c'est la politique spectacle, c'est comment ça a fonctionné dans la société, cette espèce d'ingénierie sociale visant un espèce de contrôle social complètement inatteignable dans un sens, totalement fantasmé, mais qui est encore aujourd'hui celui de la Russie poutinienne. D'autant plus inatteignable, on le verra, que pourquoi on parle de sabotage, etc., que c'est évidemment c'est une société corrompue, où vous restreignez la possibilité de contradiction ou de faire remonter ce qui ne marche pas. Donc il n'y a jamais la moindre remontée contraire à ce que vous avez dit. Donc vous ne savez jamais réellement l'état. Admettons, Poutine n'a probablement aucune idée de l'état réel des divisions qu'il a envoyées en Ukraine. De la même façon que les conscrits ne savaient pas qu'ils allaient en Ukraine ou que quel type de guerre ils allaient faire. Le sabotage du matériel, le manque d'appui, le manque de logistique, le manque de nourriture qui ont été signalés hyper tôt, c'est simplement que, d'ailleurs on l'a vu, il y a des généraux qui se sont fait gicler très vite. C'est parce que il n'y a pas de remontée possible. À partir de là, seule la corruption et la servilité, merci Jo, peuvent trouver leur place. C'est les deux jambes sur lesquelles marchait la société soviétique, et on s'aperçoit que c'est les deux jambes sur lesquelles continue de marcher la société poutinienne, on va dire. Alors, sur cette question des aveux. Ce qui frappe de stupeur, c'est l'impossibilité constante de distinguer les discours des accusés de ceux des accusateurs. C'est le naturel de leur langage à tous, du ton comme de la chanson, du refrain comme des couplets. Ce qui a rendu le problème apparemment insoluble et troublé le public du dehors, au fond, c'est la virtuosité de certains hommes à s'attribuer des crimes qu'ils n'ont jamais pu commettre, auxquels ils n'ont jamais pu même songer. C'est leur talent de donner une impression de culpabilité réelle et de sincérité totale. L'explication de ce phénomène tient tout entière dans le mot « mensonge ». L'URSS est le pays du mensonge. Du mensonge absolu, du mensonge intégral. Staline et ses sujets mentent toujours, à tout instant, en toutes circonstances, et à force de mentir, ne savent même plus s'ils mentent. Ils baignent dans une atmosphère saturée de mensonges, et quand chacun ment, personne ne ment plus en mentant. Là où tout ment, rien ne ment. L'URSS n'est que mensonge, de la base au fait. Dans les quatre mots que représentent ces quatre initiales, il n'y a pas moins de quatre mensonges. La Constitution contient plusieurs mensonges par article. Le mensonge est l'élément naturel de la société pseudo-soviétique. Staline, d'après la loi fondamentale, n'existe pas. Mensonge. Le GUEPU, selon les définitions juridiques, n'existe plus. Mensonge. Le Politburo, suivant les documents officiels, n'a jamais existé. Mensonge. Le parti, élite de la population, mensonge. Les droits du peuple, la démocratie, les libertés, mensonges. Les plans quinquennaux, les statistiques, les résultats, les réalisations, mensonges. Les textes et les chiffres, mensonges. Les emprunts, les souscriptions, mensonges. Les preuves, mensonges. Les photos, mensonges. Les témoins, les témoignages, faux témoins, faux témoignages. Les assemblées, les congrès, théâtre, mise en scène. La dictature du prolétariat, immense imposture. La spontanéité des masses, méticuleuse organisation. La droite, la gauche, mensonge et mensonge. La vie joyeuse, Stakhanov, un menteur. Le stakhanovisme, un mensonge. La vie joyeuse, une farce lugubre. L'homme nouveau, un ancien gorille. La culture, une inculture. Le chef génial, un tyran obtus. Le socialisme, un mensonge éhonté. La plus heureuse jeunesse du monde, le plus grand mensonge du monde. L'unanimité, mensonge. Le trotskisme, mensonge. Le terrorisme, mensonge. L'espionnage, mensonge. Même le beurre mélangé de clous, ce ne peut être qu'un énorme mensonge au prix exorbitant où sont les clous soviétiques, d'ailleurs introuvables. Unique réalité, la terreur qui décompose les esprits et empoisonne les consciences. Le mensonge est le premier corollaire de la terreur. Alors, pour l'anecdote... Parmi les actes de sabotage, etc., les accusés du deuxième procès étaient accusés d'avoir mis des clous dans le beurre. Voilà. C'est... donc ça, ce qui est intéressant, c'est de montrer justement voilà comment la terreur tue la possibilité de conscience, empêche le raisonnement, et c'est compréhensible du coup les accusés. On sait qu'ils ont été longuement torturés, longuement pressurisés, qu'ils ont fait l'objet de chantages terribles sur leur famille, qu'ils étaient conditionnés pendant très longtemps, et que c'est le syndrome du parachutiste. On ne voyait en spectacle que ceux qui finalement étaient prêts à y passer, au sens près, pas d'eux-mêmes, mais dont la préparation a permis qu'ils y aillent. Par exemple, des fois, on attendait qu'il y ait quelqu'un, il n'y a pas été là, parce que peut-être qu'il est mort pendant les interrogatoires ou pendant les moments où il a été pris. Je raconte souvent l'anecdote, alors il y en a dans la salle qui me l'ont déjà entendu la dire, mais dans les superstars du premier procès, dans les accusés, il y a pareil, un des vieux bolcheviques, un compagnon de Lénine, qui est franchement pas toujours le plus virulent, qui a toujours été un peu à l'aile droite ou très suiviste du parti bolchevique. Et ben, c'est Lev Kamenev. C'est un des derniers qu'on n'arrive pas à faire plier dans les pré-interrogatoires, dans la préparation de la mise en scène. Ce vieux bolchevique-là, qui était entre guillemets le plus placide de tous, ils n'arrivent pas à le faire plier. Et à un moment donné, on lui fait traverser un couloir et on s'arrange pour qu'à l'autre bord du couloir, ses deux fils traversent le couloir. Et Kamenev, il dit, mais que font là mes fils? Ils n'ont jamais fait de politique, ils s'occupent de rien, etc. Il dit, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un interrogatoire, on verra bien s'ils n'ont rien à se reprocher, etc. Donc Kamenev plie, demande et obtient une promesse verbale que si lui, il accepte, ses fils seront relâchés. Et entre guillemets, le marché est conclu. Kamenev sera un accusé on ne peut plus docile au premier procès d'août 36. Il est exécuté dans les 24 heures de son jugement et ses deux fils sont exécutés le lendemain. Voilà. C'est comment ça a fonctionné réellement, les aveux. Et ce que dira aussi, je ne vous lis pas plus de Souvarine, mais c'est que le mensonge est généralisé. Ce qui veut dire aussi que les accusés eux-mêmes, depuis des années, baignent dans les mensonges ou ont été producteurs de mensonges. Et il le fait remonter effectivement du coup assez loin à partir du moment où finalement la vie politique s'est totalement étiolée et où la réalité soviétique n'avait plus rien de soviétique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie démocratique dans les soviets, etc. Donc, ceux qui acceptent... On peut, évidemment... Pourquoi il y a cette acceptation sociale du mensonge? Alors, encore une fois, ceux qui ont le plus d'excuses, on ne va pas rentrer dans des considérations psychologiques, moi, je ne connais pas trop, mais c'est évidemment ceux qui subissent directement la répression en Russie et dans les conditions dont on vient de parler là. Un truc qui révulsera tout le temps, parce que c'est absolument révoltant, c'est sûr, Souvarine, c'est de voir en Occident ceux dont la vie n'est pas en danger sur ces questions-là reprendre les mêmes accusations. Ça, c'est pour lui, c'est totalement insupportable. Alors, on l'a dit, mais l'argument inusable du contexte et de la désignation d'un ennemi qui rendrait la chose acceptable. À aucun moment, on ne retourne la question sous la forme « mais ok, il y a un ennemi, il est tout à fait réel ». Il ne s'agit évidemment pas de minimiser le danger et l'abomination que représente le fascisme italien et surtout le nazisme allemand après, dans les années 30, qui focalise encore plus évidemment l'opposition. Mais en quoi, pour se battre contre le nazi, il faut produire du mensonge comme ça ou produire une idéologie mortifère qui, au contraire, va conduire à liquider toute une génération militante? Ça, c'est évidemment l'argument auquel il ne répond pas. Et encore une fois, c'est toujours la question de pourquoi qu'on a besoin de se battre, la vérité devrait être sacrifiée au combat. Pourquoi la vérité ne vient pas renforcer le combat, plutôt? Et ça, ce truc, il y a un ennemi commun et qu'on ne peut pas revenir sur quelque chose, c'est des choses qu'on voit toujours maintenant. La moindre, encore une fois, aux échelles dérisoires d'une campagne électorale, vous entendrez toujours un groupe ou un autre dire qu'il faut taire ces critiques-là en ce moment parce que d'un point de vue tactique ou stratégique, il faut pouvoir gagner ceci ou cela et évidemment ne jamais revenir sur les erreurs faites. Le plus terrible, évidemment, c'est que les rares opposants qui restent sur des positions de classe, comme le dit Souvarine, il y a plus de communistes de toute façon, parce que s'ils sont communistes, ils sont éliminés. Donc ceux qui restent opposants communistes, c'est par un renversement inévitable, c'est eux qui deviennent les traîtres. C'est eux qui empêchent, admettons, que se fasse l'unité du prolétariat, la célébration du Front populaire, etc. C'est eux qui sont, entre guillemets, fustigés comme affaiblissant la classe ouvrière française, quand ce n'est pas affaiblissant la France par rapport à d'autres pays. Et puis, une question qui est toujours présente, et on revient à la citation de Rosa Luxembourg, c'est l'impérialisme. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a effectivement la défense d'un camp impérialiste contre l'autre, tout le temps. Et cette logique de camp impérialiste, corsette toutes les autres questions. Il faut pouvoir tout le temps défendre ce qui est présenté comme le bon camp. Alors, alternativement, vous le présenterez le camp de la liberté, le camp du rayonnement du peuple slave ou autre, etc. On le voit, je ne vais pas prendre des caricatures, mais sur la question, admettons, comment l'omnibulation contre le camp américain l'organisation du traité de l'Atlantique Nord suffit à complètement faire vriller la plupart des analyses, par exemple, encore aujourd'hui dans le camp de ce qui se réclame d'une certaine gauche, voire d'une certaine gauche radicale, qui ne veut voir que l'impérialisme sous sa forme américaine, mais qui ne voit pas la reconstruction d'un bloc impérialiste derrière la Chine. Et qui est pourtant ce qui va piloter, je dirais, au niveau global, les relations internationales pour les décennies qui viennent. Donc, en fait, la seule façon de se déprendre de ça, c'est de revenir à un point de vue de classe. Et c'est évidemment la chose qui ne se fait pas encore aujourd'hui. On va vous donner des analyses sur l'OTAN, ceci, l'annexion de l'Ukraine par l'OTAN, ou l'agression de la Russie sur l'Ukraine qui serait liée à une politique interne de la Russie. Mais le point de vue de classe n'est pas présent. Et moi, je serais tenté de dire, mais ça, c'est personnel. Après, comment on échappe à cette emprise du mensonge d'un monde orwellien, c'est de faire le départ, la différence entre la production idéologique et la conscience de classe. On a, là aussi, ça a été une façon de mélanger tout, de dire que finalement, évidemment, compte tenu du mouvement ouvrier stalinien qu'on a connu au XXe siècle et les brides qui en restent aujourd'hui, ou de la social-démocratie mitterrandienne qui ressurgit sous les traits de Mélenchon, par exemple, il est très difficile de comprendre que la conscience de classe, ce n'est pas une production idéologique. Parce que tout ce qu'ils nous font, c'est de produire un nouveau discours idéologique. L'idéologie, c'est toujours une façon, d'ailleurs, de justifier ce qui est ou ce qui peut advenir du point de vue d'un rapport de domination. La conscience de classe, elle, c'est ce qui saisit du réel en vue d'une transformation révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a une exigence permanente dedans, c'est l'exigence de clarté. Alors, vérité, c'est peut-être un grand mot, etc., mais ça a quand même un peu quelque chose à voir avec ça. C'est-à-dire qu'il faut... La conscience de classe, c'est une vision affûtée de ce qui est pour le transformer. Donc si vous n'avez pas cette vision-là, et c'est une vision en acte, hein, c'est quelque chose de pratique, ce n'est pas quelque chose d'intellectualisé, c'est une transformation pratique. Il n'y a pas de perspective révolutionnaire sans cette conscience de classe. Et réciproquement, c'est quelque chose qui se nourrit de la transformation en cours. La différence, justement, c'est que la conscience de classe n'a pas d'intérêt en propre à sauvegarder. Elle n'a pas de programme qu'il faudrait sauver par rapport qu'il faudrait, faire prévaloir sur la réalité. Donc, c'est une ligne de démarcation très nette. Et on avait commencé avec Rosa Luxembourg. va revenir avec Rosa Luxembourg sur, sur la différence justement entre tous les courants, y compris démocrates, bourgeois, etc., et des courants prolétariens, sur cette question de la critique, de pouvoir porter la critique au nom de la clarté et de, d'une certaine idée de la vérité. Donc je cite Rosa Luxembourg, qui commence elle-même par citer Marx. Voici la citation de Marx. « Le démocrate, c'est-à-dire le petit bourgeois révolutionnaire, ça c'est un aparté de Rosa Luxembourg, je reprends, « le démocrate, c'est-à-dire le petit bourgeois révolutionnaire, dit Marx, sort de la défaite la plus honteuse aussi immaculée qu'il y était entré innocent, avec la conviction renouvelée que sa victoire est certaine et que ce n'est pas à lui et à son parti d'abandonner leur ancien point de vue, mais qu'au contraire, ce sont les conditions qui doivent mûrir à son profit. Le prolétariat moderne, fin de la citation de Marx, le prolétariat moderne ressort tout autrement des épreuves historiques. Ses erreurs sont aussi gigantesques que ses tâches. Aucun schéma tout tracé, valable à coup sûr, aucun guide infaillible ne lui indique les chemins qu'il doit emprunter. L'expérience historique est sa seule préceptrice. Le chemin escarpé de son auto-émancipation n'est pas uniquement pavé d'immenses souffrances, mais aussi d'erreurs innombrables. Le terme de son parcours, sa libération, dépend de la capacité du prolétariat à concevoir qu'il lui faut apprendre de ses propres erreurs. L'autocritique, une autocritique impitoyable, cruelle, allant jusqu'au fond des choses, voilà l'air et la lumière sans lesquels le mouvement prolétarien ne peut vivre. L'échec du prolétariat socialiste dans la guerre mondiale actuelle est sans équivalent. C'est un désastre pour toute l'humanité. Mais le socialisme ne serait perdu que dans le cas où le prolétariat international se refuserait à mesurer la profondeur de sa chute et à en tirer les enseignements. Je pense qu'en fait, c'est un peu un crash test pour moi. C'est-à-dire, qui est encore capable de dire quand il se trompe ou quand quelque chose ne marche pas? Ah, mais c'est pas le parti, c'est pas l'organisation, c'est pas ce que nous on fait qui est faux. C'est le reste, c'est les autres qui doivent se transformer, c'est nous, etc. Ce que dit Rosa Luxembourg, c'est dans ce paragraphe-là, et avec l'aide de la citation de Marx, c'est vraiment une ligne de démarcation. C'est une autre ligne de démarcation, je dirais, plus lié à la façon de produire le discours, de produire de la théorie, etc., comme l'est, par exemple, l'autre ligne de démarcation entre les classes, qu'est l'internationalisme. Voilà. Sur l'aspect linéaire de ce que je voulais présenter, c'est fini. Il y avait des choses sur l'Ukraine spécialement qui pouvaient être intéressantes à discuter. J'en ai trouvé notamment quelques-uns dans ce petit livre de Sabine Dulin, L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire. Et notamment, il ne vous aura pas échappé que ce qui est très drôle, c'est qu'on inscrit Poutine, et c'est ce qu'on fait là avec les exemples qu'on donnait, mais dans une lignée historique qui est la vision totalitaire de l'URSS, alors que lui-même, quand il a fait le discours pour nier l'existence même de l'Ukraine comme nation viable, etc., et ben il fait comme toute classe dominante actuelle est passée, il vomit d'abord la révolution russe, la révolution bolchevique. C'est-à-dire que la situation actuelle, il estime que c'est lié à la politique des bolcheviques. Et ça, c'est un point qui est rigolo, parce que je l'ai vu repris à peu près nulle part, à part peut-être dans un article, dans les gros articles de fond sur AOC. Mais personne n'a pointé, tout le monde a pointé le délire de parler de dénazifier l'Ukraine, etc. Encore une fois, hein, vous prenez les procès-verbaux des PV, c'est exactement ça. Tous les hitléristes sont déguisés en trotskistes ou en saboteurs russes, etc., etc. Mais ça n'a pas été évoqué, parce qu'en fait, il y a une politique effectivement tout à fait réelle d'autonomie culturelle, d'usage de la langue vernaculaire dans toutes les républiques soviétiques au début des années 20, et qui va même faire que des Ukrainiens en exil vont revenir en Ukraine, etc. Et la politique de Staline va changer ça très largement dans les années 30. et avec encore déjà à ce moment-là cette vision qu'ils peuvent faire le lit de l'ennemi. C'est-à-dire qu'une situation difficile dans un pays peut faire le lit de l'ennemi. Et ça, c'est toujours très présent. Et c'est une pure vision impérialiste. Ce n'est pas qu'il y a une dépendance, ce n'est pas qu'il y a une question d'exportation de capitaux. Non, c'est comment ces pays-là, ou des pays limitrophes, etc., pourraient rentrer dans un jeu d'alliance, de conflit, etc., qui me soit, entre guillemets, défavorable. Mais encore une fois, défavorable, pas au sens des Russes en général, mais de l'État impérialiste russe. L'impérialisme, ce n'est pas une caractéristique d'ailleurs d'un État en tant que tel, c'est le rapport dans lequel se meuvent tous les États à un moment donné du développement du capitalisme. Voilà. Donc on peut lire ça. D'ailleurs, parmi les rares documents nouveaux qu'on ait eus, il y a une lettre de Staline par rapport à la situation en Ukraine et à la famine qui pointe et qui montre que c'est une stratégie très consciente de tenir le pays au prix d'une famine terrible, évidemment, qu'il y aura en Ukraine à cette époque-là. Donc voilà, ce qui est terrible, c'est que ce cauchemar, encore une fois, il pointe par des petites... il pousse ses cornes diaboliques sur des façons, comment on envisage les rapports internationaux. Encore une fois, vous n'entendrez pas de parti de gauche parler d'impérialisme russe. Il parle de politique impériale, éventuellement, etc. Mais c'est pour ça qu'il y avait eu des positions si floues dès 2014, avec une espèce de légitimité à récupérer l'Ukraine ou de légitimité à intervenir dans d'autres pays, etc. On leur demande pas pourquoi, par exemple, la Russie ne s'occupe pas, comme la Russie impériale, de pousser en Extrême-Orient. Non, ça, à mon avis, ils vont pas le faire. Hein. Alors que c'était un champ d'expansion très important pour la Russie impériale vers le sud et l'Extrême-Orient. Mais non, parce que les cartes ont été rebattues en 1914 et l'affrontement impérialiste de la Russie maintenant est essentiellement tourné effectivement vers l'Europe et le Moyen-Orient. Voilà. Et alors vous en avez toujours. C'est des combats qui se mènent toujours. Vous connaissez peut-être les éditions d'Elga, qui ont pris ce qu'on peut appeler un virage révisionniste total depuis un paquet d'années. Et donc, le fondateur des éditions d'Elga, Aymeric Monville, par exemple, là, répond à des documentaires d'Arte, répond à Jean-Jacques Marie, etc. Et quand je dis révisionnisme, c'est-à-dire que c'est la remise en selle de Staline, qui est quand même le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, etc. La négation, évidemment, des morts, de l'Holodomor ukrainien, justement, au début des années 30, etc. Et ces éditions-là ont évidemment pignon sur rue, hein, ce qui est très bien, bon, je ne suis pas pour la censure, mais il y a peu de monde qui perçoit à quel point c'est un révisionnisme absolu. On trouve ça dans de bonnes librairies, je dirais. Et je vais vous lire juste un truc. Trotsky était lié aux nazis, même ce genre de choses. Delga, c'est pas une hypothèse à écarter, hein. Je vous lis. Grover Fuhr a apporté de nombreux éléments à ce propos, et je ne peux que renvoyer à ses ouvrages et articles en anglais, en plus de l'ouvrage que nous avons publié. Nous croyons savoir qu'un livre complet sur la question est en cours de publication. Mais pour nous en tenir au plan national, il est pourtant établi que les trotskistes français, en pleine guerre froide, ont préféré s'allier au pire du pire de l'époque, la CIA, pour former un syndicat anti-CGT. Tout le monde a bien chopé le raisonnement ? Des trotskistes français vont rentrer dans EFO, le fameux syndicat dont il est question, dont on a appris effectivement que la CIA, comme partout ailleurs, a filé des sous pour créer des syndicats qui ne soient pas sous la coupelle des PC. Donc, c'est pas délirant de penser que Trotsky, dans les années 30, est allié aux nazis, puisque, par exemple, des trotskistes français sont rentrés dans EFO après la Seconde Guerre mondiale, EFO qui a touché des subsides de la CIA. C'est hallucinant. Et on peut écrire ça en noir sur blanc. Hein. D'autres alliances antérieures avec d'autres impérialismes et dans différents pays n'ont donc rien d'étonnant. Ah oui, quelque chose s'est passé quelque part, plus tard, etc. Vous reconnaissez quoi, là ? Bah, le mécanisme de pensée des procès staliniens, par exemple, qu'il y a eu dans après la Seconde Guerre mondiale, en Tchécoslovaquie, etc. C'est-à-dire, on attrapait un gars, on lui dit, mais dis donc, en Espagne, t'étais dans le même bataillon que Tartampion. Tartampion, c'est ce qu'il est devenu. Donc, t'en es. Tu vois, c'est ça. Il faut... D'autres alliances antérieures avec d'autres impérialistes et dans différents pays n'ont donc rien d'étonnant. Mais à partir de là, on accuse qui on veut. Encore une fois, c'est une arme de mensonge massif, ce style de raisonnement. C'est hallucinant. Alors attention, là, il va citer la référence historique de tous les révisionnistes, mais je mets au défi des historiens ayant pignon sur rue aujourd'hui de prendre sur eux d'aller lui taper dessus, parce que là, ça prend cher. Madame Annie Lacroix-Riz a également fourni à Monsieur Marie, en 2007, les codes d'archives attestant de la collaboration de nombreux trotskistes français pendant la guerre. Ce dernier n'a pour le moment toujours pas daigné répondre à sa proposition d'arbitrage concernant l'interprétation qu'il convient de donner à ces documents, etc. etc. Je vous passe sur les aspects proprement révisionnistes sur Staline lui-même. Et en fait, ça, c'est un petit livre polémique de l'éditeur, mais vous avez les livres, en tout cas, encore une fois, de révisionnistes américains qui, sur notamment la Seconde Guerre mondiale et le rôle du génial père des peuples. Et Annie Lacroix-Riz, opinion sur rue historique, tu ne me contrediras pas, Thierry. Et voilà. Et en général... la réputation, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Vous avez toujours une fraction, notamment au sein du PTF, qui est sur cette ligne-là. C'est impressionnant. Voilà, voilà. Bon, alors, est-ce que ce type de mécanisme de raisonnement, etc., vous évoque d'autres choses aujourd'hui, etc. Moi, j'ai peut-être été super long, en fait. Indeed. Ouais.
La salle n'est pas vaste, on va pas commencer comme ça, on verra après. Je trouve que tu t'avances un petit peu. Bon, évidemment, il y a tellement de choses, et tellement riches, comme d'habitude, quand tu présentes ça, qu'on va avoir du mal à rebondir sur toute cette masse d'informations. Mais juste un point, voilà. Tu dis, personne aujourd'hui ne parle d'impérialisme russe. Quand même. Tu sais que tu t'avances forcément quand tu dis ça, quand même. Forcément, voilà. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est un des points. C'est pas nécessaire que tu avances jusque-là. Voilà. J'ai voulu vérifier. Si tu veux, ça m'a demandé une seconde. Tu vois, il a suffi que je tape impérialisme russe pour trouver X citations dans lesquelles ça se trouve. Hein. Dernier numéro du Monde diplomatique. C'est vite fait. C'est la conclusion de l'article de Renaud Lambert, voilà, qui analyse la situation. Donc, un journal dont on sait très bien toi et moi, par exemple, qu'il n'est pas exactement, si tu veux, sur des lignes que tu défends là maintenant. Par exemple, je pense que si jamais il y avait, grâce à Dieu, c'est pas le cas, un journaliste du Monde diplomatique dans la salle aujourd'hui, je pense qu'il serait tombé en apoplexie littéralement après ton exposé, quoi. Mais en revanche, il parle d'impérialisme russe. C'est la situation exacte. Ça a été assez facile à trouver. Ce que je veux dire, c'est que tu peux parler d'impérialisme russe sans notamment être obligé de tirer tout ce que tu files derrière. Voilà.
Oui, c'est probablement exact et exagéré de ma part. Je lirai cet article-là. Donc, même encore une fois, ce que j'ai l'impression, c'est que ce qu'on met derrière impérialisme russe, c'est une politique impériale, mais pas la vision de l'impérialisme telle que peut la défendre, par exemple, Rosa Luxembourg. C'est-à-dire de pas de le voir comme quelque chose qui ne s'insère pas dans un jeu mondial de tensions et d'affrontements, mais dans une politique, je dirais, voilà, qui serait liée simplement à l'aspect délirant de l'État poutinien actuel ou des choses comme ça. Mais bon, là aussi, je me trompe peut-être.
Non, ce que je veux dire, ça n'est pas nécessaire de pousser. Voilà, là, en l'occurrence, ce type d'analyse est recevable. Tu vois, le type d'analyse que tu fais du fait qu'il y a un affrontement de deux impérialistes, c'est clairement le sujet de l'article, et y compris dans les alliances qui sont derrière. Voilà, tu n'es pas rentré dans le détail, mais tu serais mieux que la Chine, par exemple, a joué un jeu qui est un jeu de neutralité tout à fait bienveillante par rapport à la situation. Et puis, les clientèles diverses ont joué ce jeu-là. On trouve plusieurs papiers qui montrent que l'ensemble des positions internationales des différents États est strictement dépendante des alliances en cours avec ou un bloc ou l'autre. Donc, ça veut dire que ça n'est pas nécessaire. Ça. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. C'est-à-dire que et c'est aussi pour dire que, voilà, et après j'arrête, sinon on n'a pas besoin de deux micros pour parler, toi et moi, voilà, j'espère que d'autres personnes interviendront après, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'aimerais que tu arrives à faire, et ça serait pour moi extrêmement précieux, c'est faire ce type d'exposé sans que tout le vocabulaire classique issu de notamment de nos actions en termes de conscience de classe, soit retraduit dans le vocabulaire d'aujourd'hui. C'est ça qui serait extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu parles de ça, où on a tes références, on voit ce dont tu parles, où on ne les a pas, et en fait, on se sent retiré en arrière. Alors qu'en fait, quand on comprend ce que tu dis, c'est en avant qu'on se sent tiré. C'est-à-dire mais c'est la manière, les références, le vocabulaire qui rend les choses difficiles dans cet exposé-là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Et j'arrête là.
Je ne sais pas si je comprends, mais j'entends quand même un bout de ce que tu veux dire, oui. Mais ça sera compliqué, parce que justement, sur cette question de vocabulaire, de mots, justement, on s'est fait dessaisir de l'essentiel, justement. Tu vois, et encore une fois, même... on parle de jeux d'alliance, de reconfiguration des alliances. Bon, c'est ce que je disais au début, mais c'est pas franchement ce que j'ai lu, ou en tout cas au début du conflit, de comprendre comment se est en train de se placer ce réalignement. Et par exemple, de la situation de la Russie dans ce jeu-là. Aussi qui est juste laminé à tout point de vue, en gros, toi, économie qui a construit son économie sur des fondamentaux qui sont liés à périclité, du moins notamment avec une dépendance à des matières premières bien disproportionnée, une démographie très très vieillissante, déclinante même en nombre absolu, une incapacité justement à tenir même sa périphérie. C'est quelque part que la Russie se lance dans une politique d'autant plus aventuriste qu'elle n'a pas, on peut être à peu près convaincu que l'État central n'a pas une vision très claire de là où il en est réellement, notamment en termes d'efficacité opérationnelle ou tout ça. Mais que tout ça s'inscrit effectivement dans un jeu où c'est de toute façon la Russie qui tire les marrons du feu, la Chine, pardon, qui tire les marrons du feu d'un côté, et les États-Unis de l'autre, parce qu'ils ont été capables de forcer un réalignement. Moi, je trouve une des choses les plus... Alors, on voit, tu dis, la bienveillante neutralité de la Chine, mais en fait, elle est de toute façon assurée de la dynamique de vassalisation de la Russie à son égard. Donc, c'est bon. Là où il y avait un jeu plus fin, c'est celui qui a été joué par les États-Unis. Hein, et je dirais, justement, quand on parlait d'impérialisme, l'aveuglement sur l'impérialisme russe, il est très étonnant parce que... américain, pardon. Il est très étonnant parce que les Américains ont joué un jeu très subtil qui a consisté à dire à peu près l'exacte vérité pendant des mois. C'est-à-dire que la Russie allait rentrer en Ukraine, tout en disant aussi à la Russie qu'il ne réagirait pas directement.
Oui, j'avais une question peut-être un peu naïve, mais ça serait pour avoir quelques précisions. En fait, vous avez fait la conscience de classe, donc une forme de porte de sortie face à l'idéologie et un moyen aussi de repenser certains thèmes qui ne sont pas dans l'actualité politique de nos jours. En fait, j'aimerais bien comprendre exactement de quoi il s'agit, dans le sens où une conscience de classe, dans les années 1900, par rapport à un prolétariat qui n'a que sa force de travail, une forme de communauté de vécu vis-à-vis des conditions d'existence, fait sens, c'est-à-dire cette idée de partir de la réalité et puis d'avoir des intérêts communs. Et donc maintenant, la question que je me pose, c'est à quel point on peut partir de cette réalité pour se défaire de l'idéologie, sachant qu'il y a des formes de communauté d'intérêts vis-à-vis telle ou telle réalité. Les conditions d'existence sont différentes d'une catégorie sociale à une autre. Et donc j'aimerais bien, peut-être qu'il s'agit plus que de la prise de conscience de la méthode utilisée, c'est-à-dire partir du réel pour remonter et se défaire donc de l'idéologie. Ou alors j'aimerais bien aussi savoir de quelle prise de conscience il s'agit plus que de la méthode. Enfin voilà. Juste ça, c'était un peu.
Ouais, c'est une excellente question et c'est sûrement la question la plus vaste et la plus difficile qu'on ait actuellement. Et c'est une question qui agite quand même ce qui reste un peu de milieu prolétarien, pour à peu près dans les termes où tu l'as dit, c'est-à-dire dans quelle mesure les transformations sociales et les conditions de vie matérielles du prolétariat aujourd'hui lui permettent encore d'avoir cette forme d'association et d'élaboration collective qu'il a pu avoir. Est-ce que ça, c'est encore... Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore jouable? C'est pas une question simple, parce que le prolétariat ayant été défait, justement, au travers de l'échec de la vague révolutionnaire au début des années 20, par la Seconde Guerre mondiale, l'incapacité de s'opposer à la répression quand il a relevé un petit peu la tête. On peut parler après 68, 69, par exemple, en Italie notamment. On a vu que la classe dominante, elle, ne restait pas inactive et justement comprenait qu'il fallait parachever sa victoire idéologique qui semblait totale par une transformation des conditions matérielles de production. Et ça a été assez clair, notamment dans tous les plans pour essayer de fracturer les grands centres industriels, de repenser les centres urbains aussi. Du moins, il y a eu toute une politique là sur depuis les années 70 qui peuvent donner l'impression effectivement qu'elle a largement réussi à émietter entre guillemets la classe ouvrière. Et aussi parce que dans nos pays, dans les pays occidentaux, si on regarde seulement cela, les conditions de production ou ce qu'il y a à produire, etc., a été effectivement pas mal chamboulé, a beaucoup changé. Néanmoins, alors ça c'est vrai, et c'est une véritable difficulté, hein. On la voit à chaque fois qu'il y a des luttes, le fait de pas arriver à exprimer des intérêts communs, parce que la conscience de classe, encore une fois, je le redis, c'est quelque chose de très pratique, c'est quelque chose qui ne se mesure que dans le mouvement ou dans la cristallisation dans une organisation, quelquefois, mais essentiellement dans des mouvements de lutte. Et ça, on le voit de façon sporadique, ce qui laisse penser que c'est toujours possible. C'est que l'antagonisme de classe entre lui, par ailleurs, la situation se décomposant socialement énormément, c'est pas forcément un facteur positif que la situation sociale se décompose. Hein, pour une conscience claire, ça veut dire aussi qu'on met plein de merde dans la tête à tout le monde. à l'occasion de cette décomposition, parce que justement tous les intérêts particuliers vont être exacerbés et on va inventer plein d'autres raisons de diviser la classe ouvrière. Néanmoins, de plus en plus, on voit une tendance lourde qui est que les États renforcent leur appareil répressif. C'est-à-dire et que de plus en plus dans les manifestations, un élément de cristallisation de cette conscience de classe, ça va être justement de prendre conscience qu'on est tous en train de s'affronter à une force répressive brutale. Moi, je pense que tous ceux qui ont fait les mouvements gilets jaunes, retraite ou assurance chômage de 2018-2019 voient à peu près de quoi ils retournent. C'est-à-dire que c'est plus possible de manifester sans être massivement gazé, matraqué, parqué, nassé, etc. Et que le discours là-dessus a eu quand même du mal à tenir sur la durée. Le discours que c'était parce que le mouvement aurait été violent ou incontrôlable, etc. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on n'a pas vu au départ un soutien très clair ou très massif des organisations institutionnelles, syndicales et autres sur ces mouvements-là. Donc, c'est une véritable difficulté. C'est-à-dire que c'est très dur. Ce qu'avait pour eux le prolétariat dans les années que tu cites, au début des 1900 et autres, c'est que même si la conscience de classe, évidemment, n'est pas permanente, parce qu'elle n'est encore une fois que dans un processus de transformation, dans un processus révolutionnaire, où, encore une fois, se cristallise de temps en temps sur des textes programmatiques, par exemple, ou des choses comme ça. Néanmoins, il y avait une identité de classe. C'est-à-dire que les ouvriers pouvaient se reconnaître comme ouvriers indépendamment du fait qu'ils soient en lutte, par exemple. Ce qui est quelque chose qui n'est plus très évident maintenant, par exemple.
Parce que j'avais retenu cette idée par rapport à Lukács, là, cette idée que le prolétariat, en prenant conscience de sa condition de lui-même, il se constitue au même moment en tant que sujet. Et donc, je vois cette idée de conquérir une identité de classe. Et pour le coup, même si les pistes de réflexion que vous avancez elles sont intéressantes, le fait de se définir, du coup, par la lutte, tant à laisser croire que il n'y a pas un sujet qui se produit automatiquement, enfin si ce n'est contre. Mais je vois cette différence de perspective où cette idée de conscience de classe reconnecte à travers l'oppression systématique et généralisée de la part du coup des classes dominantes.
C'est un élément, j'espère qu'il n'y aura pas que ça, c'est-à-dire qu'il reste aussi dans les luttes, on a pu voir ça quand même encore, en étant sur les luttes retraites ou c'est ce qu'il pourrait y avoir sur l'assurance chômage, c'est que sur des lieux de travail, il y a aussi encore des choses qui vivent sous les formes d'assemblées à la base, même si, encore une fois, même dans ce contexte-là, il faut en permanence se battre contre des formes de délégation, de représentation syndicale ou autre, etc. Mais on voit quand même ça surgir dans les formes d'organisation, d'auto-organisation qu'il y a eu, admettons, sur le mouvement Gilets jaunes retraite, ou des comités d'action ou des comités de communication, etc., se forment, où on essaye de retrouver des façons de tenir des assemblées générales très larges, de délégations de secteurs, etc. Mais dans un terrain miné, dans un terrain beaucoup plus difficile, parce qu'il ne préexiste pas vraiment d'identité de classe, ou alors elle a été fractionnée ou attachée à certaines caractéristiques, justement, qui ne sont pas celles, entre guillemets, du prolétariat. On va en trouver attachées à d'autres formes de lutte, tout aussi légitimes, hein, mais qui ne permettent pas une unité de classe. Après, la conscience de classe, encore une fois, hein, ça peut paraître fumeux, mais c'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'on se reconnaît comme sujet et qu'on sait qu'on va pouvoir faire quelque chose, qu'on doit faire quelque chose. Et, C'est la conscience de classe, c'est la façon réfléchie de cette phrase fantastique qu'avait eu Marx dans l'idéologie allemande, hein, c'est dans la définition du communisme. Le communisme, c'est le mouvement réel qui abolit l'ordre des choses. C'est ça. On donne toujours l'exemple de forme de cristallisation de la conscience de classe. Moi, je donne toujours le même. C'est le Prikaz numéro 1, après la révolution de février 1917, que certains connaissent bien maintenant. D'un coup... une armée faite de briques et de brocs, etc., qui a subi la guerre, l'armée russe, hein, et qui le pouvoir tsariste s'effondre, parce que lui, c'était un fruit pourri, certes, mais bon, et puis un gouvernement se met en place, etc., mais il y a un soviet qui se crée, parce qu'on sait qu'on avait déjà fait des soviets 12 ans plus tôt, etc. Première réunion, il publie le Prikaz numéro 1 qui dit quoi ? Tout mouvement de troupes, tout déplacement de soldats, etc., devra être contresigné du soviet. Ah oui, il existe un gouvernement, c'est vrai. On en a entendu parler. Mais pour les soldats, pour les déplacements, tout ce qui se passe sur les garnisons de Petrograd, de Saint-Pétersbourg, devra être contresigné par le soviet. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça, c'est un mouvement réel et qui abolit l'ordre des choses. C'est-à-dire, tout d'un coup, en un bout de papier qui fait une petite page, ils sont en train de retirer d'un coup la puissance, une bonne partie de la puissance répressive de l'État. Et en fait, ils expriment là-dessus une conscience de classe. C'est-à-dire, si on laisse ça à la classe ennemie, aux autres, et on ne sait pas c'est quoi... Personne n'a d'idée de ce que va être le gouvernement provisoire qui va venir, de ce que va être le gouvernement, le pouvoir qui va se mettre en place. Mais le prolétariat et les soldats réunis dans le conseil d'ouvriers et de soldats, justement, prennent cette mesure-là immédiatement.
Voilà, on va conclure. Merci beaucoup, Eric. C'était... Merci.
C'était « Rencontre avec des membres des éditions Smolny » autour du livre « Cauchemar en URSS, les procès de Moscou 1936-1938 » de Boris Sovarine.
Radio Livre d'or.